Le 21 juin 1791, à 7 heures du matin, le valet de chambre du roi vient réveiller Louis XVI dans sa chambre du palais des Tuileries. Le lit est vide. Un document intitulé « Déclaration de Louis XVI à tous les Français à sa sortie de Paris » y est placé bien en vue. La nouvelle se répand vite dans Paris. Où est passé le souverain ?
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
La famille royale est installée au palais des Tuileries depuis le 6 octobre 1789, suite aux journées révolutionnaires qui l'ont obligé de quitter Versailles. Le roi y est à la fois au cœur de sa capitale, sous le regard du peuple parisien et de l'Assemblée. Il se sent isolé face à une situation qu'il ne maîtrise guère. La question religieuse, avec la constitution civile du clergé, lui procure des remords. Il a accepté de la signer le 28 juillet 1790, mais elle a été condamnée par le pape Pie VI le 10 mars 1791. Le clergé français se divise entre jureurs et non-jureurs, c'est-à-dire entre ceux qui prêtent serment à la constitution et ceux qui la refusent. Le dimanche des Rameaux, 18 avril 1791, on empêche le roi d'aller à Saint-Cloud pour assister à la messe célébrée par un prêtre non-jureur. Cet événement, pour un catholique si pratiquant qu'est le roi, a peut-être déterminé Louis XVI à quitter Paris avec sa famille. Mais les premiers projets de fuite remontent à octobre 1790. Le projet final est le suivant. Il s'agit de rejoindre les troupes, jugées fidèles du marquis de Bouillé, stationnées à Montmédy, dans la Meuse. De là, le roi lancerait une proclamation à tous les Français afin de souligner la situation dans laquelle ils se trouvent. Dans ce manifeste, le souverain accepte certains acquis de la Révolution. Il accepte l'égalité juridique, l'égalité fiscale, mais souhaite néanmoins conserver un pouvoir exécutif fort pour la couronne. La fuite est préparée dans le plus grand secret, en particulier par Axel de Fersen, proche de la reine, certains susurrent très proche. L'équipage est censé être la baronne de Korff, veuve d'un colonel russe, accompagnée de ses deux enfants, de la gouvernante de ceux-ci, d'une dame de compagnie de Madame de Korff, et de M. Durand, intendant de la baronne. Celle-ci est jouée par Madame de Croix de Tourzel, gouvernante des enfants de France. La reine est Madame Rocher, gouvernante des enfants de Madame de Korff. Le roi est l'intendant Durand. Le descendant de Saint-Louis porte un nom bien banal. Après la cérémonie habituelle du coucher à 23h30, à laquelle assiste le marquis de Lafayette, chef de la garde nationale, le petit groupe de la baronne de Korff s'habille et commence individuellement à sortir des Tuileries à partir de minuit 10. Néanmoins, quelques membres du groupe se perdent dans les ruelles qui entourent alors le palais des Tuileries. La berline ne s'ébranle qu'à 1h50 et atteint Bondy à 2h30, mais elle a déjà pris 1h30 de retard.
Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
À Paris, l'annonce de la fuite royale est un coup de tonnerre au sein de l'Assemblée nationale. Lafayette, qui s'était porté garant de la surveillance du roi, envoie des courriers dans plusieurs directions afin d'appréhender les fugitifs. Les plus radicaux de l'Assemblée ne cessent de répéter qu'ils avaient prévu la fuite de Louis XVI, alors que les partisans d'une monarchie constitutionnelle sont dans l'embarras. Marat, dans son journal, jubile. Il avait toujours prévu la trahison de Louis Capet. Lafayette, Bailly, maire de Paris, Alexandre de Beauharnais, président de l'Assemblée, élaborent la thèse de l'enlèvement du roi par des ennemis de la Révolution. Thèse peu crédible au regard du document laissé par Louis XVI et qui démontre que le départ est une volonté royale face à une situation politique qui le marginalise. Sur le chemin de Montmédy, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Il est vrai que la famille royale perd du temps. On s'arrête pour faire manger les enfants, organisant une sorte de pique-nique familial. Le roi aime à se détendre, faire quelques pas hors de la berline. Lui qui est un homme aimant la nature et aimant la chasse, il se sentait finalement très à l'étroit dans les Tuileries. Les troupes, tels des cavaliers du régiment de hussards de Lauzun, chargés de prendre la famille royale sous leur protection, attirent l'attention et inquiètent les populations. Face au retard qu'a accumulé la berline royale, ordre leur est donné de se retirer pour éviter des heurts avec les populations locales. Vers 20h, au relais de Sainte-Menehould, le maître de poste, Jean-Baptiste Drouet, pense reconnaître le roi grâce à une effigie qui se trouvait sur un assignat, mais ne réagit pas immédiatement. Un peu plus tard, ayant alerté la municipalité de Sainte-Menehould, il se lance à la poursuite de la berline en compagnie de son ami Jean Chrysostone Guillaume. À 22h50, les deux hommes arrivent à Varennes, où la berline les a précédés de quelques minutes. Drouet avertit Jean-Baptiste Sosse, procureur syndic de la commune, de ne pas laisser repartir la berline. Jean-Baptiste Sosse est un fabricant de chandelles. Il est responsable de la municipalité de Varennes. C'est un homme honnête, simple, qui ne s'entendait certainement pas à recevoir la famille royale dans son atelier et sa maison de Varennes. Drouet et les patriotes de la municipalité de Varennes lui demandent de prendre ses responsabilités et de ne surtout pas laisser repartir la berline. Alors que le tocsin sonne dans le village, le pont qui permet de sortir de celui-ci est barré à l'aide de deux vieux canons que l'on a mis en bordure de la rivière. La famille royale est accueillie dans la maison de Sosse. Celle-ci est vite occupée, entourée d'habitants de Varennes, de paysans des environs que la cloche du tocsin a alertés. Le roi est formellement reconnu par le juge des thèses qui a travaillé à Versailles et qui a eu l'occasion à plusieurs reprises de voir le souverain. Vers 7h du matin, les envoyés de l'Assemblée nationale arrivent à Varennes. Ils décident qu'il faut revenir à Paris au plus vite. Le voyage vers Paris est une sorte de cortège funèbre pour la monarchie. Les paysans des alentours se pressent. Ils ont été avertis que le souverain allait passer et l'on ne voit que très rarement dans sa vie un roi de France. Ils manifestent ou une espèce d'indifférence polie, un respect. Quelques-uns vont néanmoins insulter les participants à l'expédition. Un notable local viendra pour sa part présenter ses hommages au roi. Il sera massacré par une foule en délire. À l'entrée de la capitale, ordre a été donné par l'Assemblée de ni insulter ni acclamer le roi. C'est donc une foule très importante qui assiste silencieusement au retour de Louis XVI et de ses proches. L'institution monarchique est désormais clairement en débat. Si la majorité des députés de l'Assemblée acceptent le maintien d'une monarchie constitutionnelle, après tout, la Constitution a fait l'objet de longs débats, une partie de ceux-ci, soutenue par le Club des Cordeliers, lance une pétition en faveur de l'instauration d'une république. Le 17 juillet 1791, une manifestation de pétitionnaires est sévèrement réprimée sur le Champ de Mars, l'ordre ayant été donné par Bailly, maire de la capitale, de réprimer celle-ci. Désormais, le sang a coulé, non pas par un ordre royal, mais il semble bien qu'une partie de la population de ce qu'est encore le royaume de France ait vécu le départ du roi comme une trahison. Certes, il ne souhaitait pas aller à l'étranger, ni dans les Pays-Bas autrichiens, l'actuelle Belgique, à la différence de son frère Louis, futur Louis XVIII, ou rejoindre les émigrés de Koblenz, au-delà du Rhin. Non, le souverain voulait rester, mais rester dans le royaume, c'était donc quitter sa capitale, quitter ce peuple qui finalement l'aimait encore. Cette rupture va par contre commencer à creuser un fossé psychologique, affectif, entre une partie des Français et le souverain. L'épisode de Varennes est lourd de conséquences et porte en lui la journée du 10 août 1792 qui verra la prise des Tuileries par la foule parisienne et la chute de la monarchie dans le contexte inquiet d'une guerre déclenchée au mois d'avril précédent. Peut-être que l'échafaud du 21 janvier 1793 portait son ombre sur la fuite de Varennes.